Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kyla Tsinis.
Kayla Itsinis. I'm Kayla Itsinis, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles, le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
Ouh là là.
On va faire le trou normand, le calvadis sous les graisses, l'estomac creuse et il n'y a plus qu'à continuer.
Ah bon?
Voilà, monsieur.
Oui. Mais que, comment on boit ça?
Du sec.
Allez.
Moi, c'est Mika. Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles.
Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles. On est de retour pour de nouvelles aventures. Alors, je suis assez content parce que mes aventures ont commencé assez tôt en train, parce que les plus belles histoires d'amour se passent en général sur un quai de gare. Et comme je suis quelqu'un de romantique et que j'aime bien les histoires d'amour, bah je prends souvent le train. Bon, je suis toujours célibataire, donc ça marche pas vraiment, mais enfin bon, on s'arrange. Alors, avant de passer à l'épisode du jour, je voulais déjà vous remercier parce que ça fait exactement 3 ans que ce podcast existe. Ça fait 3 ans que je sillonne les routes de l'Alsace de haut en bas, de gauche à droite, et parfois il y en a d'autres qui arrivent. Au hasard des salons, et je vois qui grandit aussi dans les yeux de gens que je croise comme ça au hasard, qui savent pas souvent qui je suis, et c'est très bien aussi. Et remercier aussi parce que cette aventure sans Adrien n'aurait jamais eu la même saveur, et que j'ai eu un bon nez le jour où je lui ai dit viens, on fait un podcast. C'était plutôt agréable. En tout cas, 3 ans de belles rencontres, 3 ans de sourires, 320 dégustés, des bouffes à n'en plus finir, l'Alsace comme on l'aime, généreuse, vivante, et surtout, extrêmement talentueuse. Sinon, aujourd'hui, je suis alors au fin fond de l'Alsace. Je suis dans ce qu'on appelle le Jura alsacien. Je l'ai placé déjà.
Bravo, un mot.
Je l'ai placé et je suis à la fois honoré, touché, parce que c'est des gens que j'aime profondément. L'histoire avec l'un a commencé au hasard quand je suis rentré la première fois au fil du vin libre. J'ai vu ce beau jeune homme assis comme ça, le sourire aux lèvres, et j'ai dit ah ouais quand même. Et en fait, il fait un peu partie de la genèse pour moi de ma rencontre avec le vin nature, et c'est pour ça que je suis assez touché. Et puis l'autre, je l'ai croisé, je crois que je me trompe pas, c'était au Café des Sports où je l'ai croisé la première fois. Et c'était un serveur qui était souriant, où il y en a quelques-uns à Strasbourg, ça existe. Et en fait, les deux se sont lancés dans un projet assez impressionnant, parce qu'aujourd'hui, chères auditrices et chers auditeurs, je ne parlerai pas de vin. Et je ne parle pas de bière non plus. Mais aujourd'hui, on va parler d'une boisson qui est également très antique, dont l'histoire a commencé en Irlande et a arrivé plutôt en France, mais du côté de la Bretagne pour arriver en Normandie, ou de la Normandie pour arriver en Bretagne. Il y a différentes légendes qui racontent, mais l'Alsace a aussi sa part à prendre et la prend, et on a bien raison. On va parler de cidre aujourd'hui. Alors, je vais vous présenter le premier, celui qui a travaillé chez le caviste, chez Jean. Salut Jean. Salut Léo.
Bonjour.
Comment tu vas?
Ça va très bien.
Je suis content de t'avoir dans du raisin des papilles. Je crois que je t'ai jamais interviewé.
C'est cocasse. Si, tu m'as interviewé à la Sommerfest. Et du raisin des papilles, aujourd'hui, c'est des pommes et des jeunes.
Bon, c'est ça, c'est des pommes et des papilles aujourd'hui. C'est vrai que Sommerfest. Mais bon, ce qui se passe à la Sommerfest reste à la Sommerfest. Et le second, c'est David.
Bonjour.
Alors, je vous propose que pendant ce temps qu'on est ensemble, on parle déjà de votre parcours. parce que vous avez une histoire commune tous les deux, et on va en parler longuement, mais on va déjà vous parler de vous, de votre parcours, votre histoire déjà avec le vin, puisque toi tu es un grand passionné de vin, mon cher Léo, et surtout, après, on va passer à l'éternelle dégustation, et une petite nouveauté que je teste avec eux aujourd'hui, alors ça prend pas, on verra, mais on en parlera un petit peu plus tard, et bien sûr, toujours mes petites questions pour aller au fond des choses, parce que les artistes, on a besoin de les connaître et de les comprendre. Non, je vais commencer par David. Tiens, j'ai changé d'avis. Est-ce que tu peux me... Alors, David, qui es-tu ? Je crois que tu es le local de l'étape, c'est ça ?
Je suis le local de l'étape. Moi, je suis originaire du village de Biddertal. Et je me suis lancé dans la restauration quand j'avais 18 ans. J'ai travaillé un peu ici, au fin fond du Sungo. Je suis monté vers Colmar et ensuite à Strasbourg pour la sommellerie. Et c'est là que j'ai rencontré Léo. En alternance. Donc, on travaillait les deux à Strasbourg et on était en alternance à l'école à Guebwiller.
D'accord.
Et du coup, à force de trajets ensemble, de sorties beaucoup.
Dans la même rue.
On travaillait dans la même rue, le Quai des Bateliers. Donc,
c'est une histoire d'amitié en fait.
C'est une histoire d'amitié, ouais, qui s'est très vite liée.
D'accord.
Ouais. Et ensuite, ça nous a poussé à... On a fait une très belle colocation Place Gutenberg ensemble. D'accord. Et on a fait mûrir le projet à ce moment-là, quoi, après les débuts de la coloc. Enfin, après le confinement, en fait.
Ouais. Et quand tu parles de sommellerie, tu as travaillé dans quelle maison ?
Mon alternance s'est faite au 1741.
Oui.
Et j'ai continué à travailler un petit peu là-bas par la suite. Et ensuite, j'ai été embauché après là-bas. J'ai continué un petit peu à bosser. Ensuite, j'ai arrêté la restauration et je suis allé travailler au domaine Grosse, chez Vincent Grosse à Guebwiller. Et juste après ça, j'ai travaillé chez Eric Kam à Nambach-la-Ville. Et donc ça, c'était la saison d'hiver, début printemps. Et ensuite, je suis allé travailler au Café des Sports en 2021.
Okay.
Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Bon.
Okay.
Et après, il y a eu un passage au Jaja, un petit peu. Là, j'ai eu une période là cet été toute l'année qui s'est écoulée où j'étais un petit peu à gauche, à droite, en extra.
C'était le lundi au Jaja.
C'est ça. C'était cool, on s'est bien amusé.
Bah, bonjour Lise, hein, du coup.
Bonjour Lise.
Ouais. J'ai l'impression qu'on va souvent dire bonjour à tout le monde. Je fais mon Michel Drucker, ça me va bien. Salut, si tu nous entends. Et toi, mon Léo ? Parce que toi, tu es une des personnes que j'apprécie le plus dans ce milieu-là.
T'as
toujours été toujours solaire et un vrai passionné. Mais par contre, je ne connais pas ton histoire, en fait.
C'est vrai qu'on va dire coucou à beaucoup de monde parce que mine de rien c'est un tout petit monde le vin nature et c'est vrai qu'on a tous beaucoup de connaissances en commun qui nous font grandir. J'ai commencé la restauration pareil à 18 ans, pas forcément via des études. J'ai arrêté la fac très vite et je suis allé toquer à la porte du Burisl. Aussi restaurant étoilé à Strasbourg et qui m'ont pris comme commis de salle où je suis resté un an et demi et là j'ai vraiment chopé la fièvre du vin. J'étais avec deux super sommeliers et j'ai eu une petite expérience de sommellerie en remplaçant un des deux sommeliers qui est parti en congé parental, mais ça m'a vraiment beaucoup plu et là j'étais persuadé qu'il fallait que je fasse que c'est ce que j'avais envie de faire, sommelier. Et j'avais aucun diplôme hôtelier. Du coup, je me suis inscrit en candidat libre pour passer un CAP pour pouvoir passer la mention complémentaire. Et j'avais pas forcément envie de rester au bubu pendant que je faisais ça. Alors du coup, je me suis dit, si déjà je fais un diplôme, j'en fais un autre. Et je me suis inscrit en BTS Vitueno.
D'accord.
Je pensais à viticulture et œnologie, je pensais qu'on allait parler d'appellation de France et tout ça, enfin j'avais aucune idée de ce que c'était. Je me suis inscrit un peu au hasard. J'ai fait en alternance chez les Husselin à Orchefir.
Okay.
Et en fait, pas du tout, c'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec les appellations, c'est chimie organique du vin, viti, mais énorme coup de cœur avec ce monde-là, avec en fait, tu comprends le produit vraiment à son origine et ça fait. c'est vraiment une approche qui est complètement différente et ça m'a vraiment plu. Beaucoup de rencontres super, super chouettes avec, avec des gens qui sont pas du tout du milieu de la restauration, du milieu de la gastronomie et tout ça. Donc super. Et au bout de ces deux ans, j'ai fait la mention complémentaire en sommellerie et là en alternance au Fil du Vin Libre à Strasbourg chez Jean Balch. Enfin, plus grosse caverne d'Ali Baba de la nature. Salut Jean-Mal, je suis, ouais.
Le patriarche de la nature.
Le pape. Ouais. Le boss final.
C'est ça, le maître Yoda.
Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est là, c'est en mention qu'on s'est rencontré avec, avec David. C'est lui qui avait le plus beau costume de la classe.
Ouais.
Et on a fait toute la cave du garde-fou pendant notre année de mention et c'était grandiose, ouais.
Okay.
C'était chouette, on a bu de la grosse canette.
Ouais. Ah, c'est vrai qu'on boit de bonnes choses chez eux aussi.
Ouais, ouais. Garde-fou dont on salue l'équipe.
Bah, je veux dire, on va saluer on beaucoup
salue de monde.
Non, il n'est pas sponsorisé par les gens qu'on salue, quoique c'est pas loin.
Secteur de l'hôtellerie de restauration de Saint-Denis.
Mais c'est vrai que c'est un monde qui est petit, mais toi, tu n'as pas toujours bu que du vin nature. Finalement, tu es comme tout le monde.
Non.
Tu ne bois pas que du vin nature.
Alors, j'ai quand même une grosse... référence,
oui,
et puis ce que je bois et ce que j'aime ramener, ce que j'aime partager, c'est des vins pur jus, des vins libres. Mais non, j'ai plaisir à boire des vins, pas forcément des vins conventionnels aussi, mais certains vins biodynamiques. J'ai pas l'impression de vendre mon âme quand je goûte certaines choses qui sont un peu filtrées, un peu sulfitées. Et je prends beaucoup de plaisir avec. J'ai pas envie de nommer forcément des domaines, mais il y a deux trois petites choses que j'ai dans ma cave qui sont pas nature. Il y a pas de, mais bon, j'ai quand même été converti par,
oui,
par la Mival change.
Après, nous ne sommes pas des gens sectaires dans ce milieu là en tout cas. On essaie de garder une ouverture, mais c'est vrai que la bonne biodynamie, ça existe, et il y a du bio aussi qui existe bien, et puis il y a aussi une réalité économique où les gens parfois ont peur de perdre une partie de leur clientèle aussi, surtout quand on fait du particulier. C'est pas forcément clair. Toujours, surtout en Alsace, où on a comme l'habitude en général de s'adresser plus aux particuliers qu'aux professionnels, bon, même si ça a changé un petit peu. Mais c'est vrai que c'est comme ça. C'était quoi ton premier coup de cœur en vin ?
Mon premier coup de cœur en vin ? La première fois que je me suis dit, je me rappelle, c'est la première fois, parce que je goûte du vin depuis que je suis tout petit, parce que mon père bosse là-dedans. Et toujours, il me faisait sentir des trucs. Moi, je piffais jamais rien à rien. Oui, ça sent le vin. Genre, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse ? Et il parlait plein d'arômes, de fraises, de machin. Je comprenais jamais rien. Et un jour, j'ai mis le nez sur un vin de l'oubli de chez Michel Issali en 2002. C'est un oxydatif du Sud-Ouest. Et énorme claque, énorme coup de cœur. Je pensais pas que c'était possible qu'on puisse avoir autant de profondeur dans un vin. Après, voilà, c'est des oxydatifs, du coup, c'est des aromatiques qui sont très, très marquées. Mais c'est marrant parce que c'est ça qui m'a fait prendre conscience que, ah purée, enfin, j'arrive à sentir quelque chose. Et j'ai trouvé ça vraiment super puissant et ça m'a fait vraiment du bien de goûter ça. Et après, ça m'a marqué. J'ai eu envie de sentir d'autres choses et de comprendre un peu comment goûtaient les autres vins de manière peut-être un petit peu plus subtile, mais c'est vraiment ça le truc qui m'a le premier truc qui m'a marqué vraiment c'est ça.
Et toi, c'est quoi ton premier coup de cœur vin nature plutôt?
Premier coup de cœur vin nature, c'est une bonne question.
Je n'ai pas de bonne, pas toujours.
Je me souviens que j'avais goûté un truc qui m'avait beaucoup marqué, c'était un Riesling Zotzenberg en 2015 de chez Jean-Pierre Rich, et ça m'avait c'était peut-être aussi le moment, j'étais dans un super restaurant, c'était au Funambule à Strasbourg, mais très bien mangé. Moi j'allais Funambule. C'était peut-être aussi le moment, mais le vin était vraiment excellent et une grande profondeur et c'est un des vins qui m'a le plus marqué, je pense. Je sais pas si c'est mon premier coup de cœur, mais
c'est un vin qui t'a marqué.
C'est un des vins qui m'a le plus marqué.
Rich, ça marque souvent. Oui. Ses étiquettes et ce qu'il y a dedans, c'est plutôt très bon. Mais voilà, les années passent et un jour, je vois sur une table un cidre. Je me dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Voilà, j'apprends que c'est vous les instigateurs et les auteurs. Parce que vu ce que j'ai goûté quand je suis arrivé, j'ai vraiment envie de parler d'auteurs. Et on parle de vin vivant, j'ai envie de parler de cidre vivant aussi, donc ça me plaît plutôt. Alors moi, j'ai toujours été un amateur de cette boisson-là, parce que je trouve que voilà, même si c'est de l'alcool, ça reste quand même assez abordable. Et après, c'est toujours dommage, j'adore les crêpes, mais c'est vrai que les crêperies, en tout cas à Strasbourg, c'est souvent la même chose, c'est sponsorisé par la même marque, et ça, c'est un petit peu dommage. Enfin, passons. Qui me fait la carte de visite de votre cidrerie ?
Léo.
Alors déjà, le nom, c'est quoi le nom David ?
Le nom Renaissance, ok. Renaissance, c'est... c'est
Emmanuel Macron.
Ça s'écrit, oui, ça. Voilà, c'est ça. On lui a soufflé l'idée.
Donc, mais par contre, c'est le René, le prénom.
C'est le René, le prénom, tiret, sens, voilà. S-E-N-S. C'est René parce que René c'était le prénom de mon grand-père notre lieu de travail notre chais c'est la grange c'est l'ancienne grange du grand-père hein, qui était agriculteur et donc ça vient de là et également du fait que à la fois, lui faisait un petit peu de cidre, mais en fait, comme on en discutait tout à l'heure, c'est une tendance générale, qui se perd, hein, mais tout le monde faisait un petit peu de cidre. À l'époque, beaucoup de gens avaient un petit peu de vigne ou des choses comme ça, faisaient du vin ou de l'agnole. On est un petit peu dans l'optique de réveiller un petit peu tout ça, de redynamiser notre terroir, hein, le Jura alsacien, et redynamiser cette campagne et montrer un peu que c'est pas seulement sur les grandes appellations, faudrait dire ça peut-être aux institutions.
Et ça recommence.
Notamment aux douanes. Mais c'est pas seulement dans les grandes zones d'appellation qu'on peut faire du cidre, ou c'est pas seulement dans les grandes zones d'appellation qu'on peut faire du vin, quoi.
D'accord. Parce qu'on peut parler de cidre, il y a des appellations autour du vin, on sait, mais il y a des appellations dans le cidre.
Il y a des appellations, ouais, des AOC, il y a des IGP, mais voilà, elles sont concentrées en Normandie, en Bretagne. Également, et je crois que pour les appellations, c'est tout. Il y a des appellations aussi.
Il n'y a pas une dans le Loiret ou une IGP alors ? Je ne sais pas.
Ok, ouais, donc c'est protégé. Et du coup, comment est venue cette idée de Renaissance ?
De l'idée du nom ?
De vous associer.
Je crois que c'est de fil en aiguille.
Ouais.
Moi, je me rappelle de quand David m'a montré le verger pour la première fois. Ça fait
tilt,
mais je crois que c'est à force de parler. Tu sais, en mention, on avait un gros délire de oui, faut replanter de la vigne dans le Sungo, c'est des grands terroirs. On est à côté du Jura, il y a des sols qui sont super intéressants. Et de fil en aiguille, ayant peut-être ça en tête, pas forcément, on n'allait pas forcément planter des vignes et faire du vin dans 10 ans. Tu prends conscience qu'en fait il y a un gros patrimoine de vergers dans le secteur et que en fait on n'a pas forcément besoin de rapporter des vignes pour faire déjà quelque chose où on peut mettre en avant le terroir et du coup je pense que ça s'est fait ouais un petit peu de fil en aiguille mais j'avais un carnet pendant le post-confinement où quand j'allais je me baladais un petit peu partout et j'avais noté un truc du style planter des vignes dans le Sungo. Objectif 1, planter des vignes dans le Sungo, en attendant faire un négoce de fruits pour financer ça. Un truc comme ça, et je pense, fil en aiguille, on exploite certains vergers dans le coin, et puis le cidre, c'est quand même super intéressant, et puis c'est différent, ça change un petit peu, quoi.
Et donc, du coup, t'as oublié l'idée de planter de la vigne, ou...
Non, c'est juste que...
Ça prend 10 ans, quoi.
Ouais, première année, on a planté 40 pieds de vigne. C'est pas grand chose. On voulait en planter tous les ans beaucoup. Ouais. C'est impossible d'avoir une autorisation de plantation, Yacine. Tu peux rêver. Mais on a le droit de planter jusqu'à 10 arts sans forcément demander une autorisation. Mmh. Donc l'idée, c'était de planter un petit peu des petits îlots un peu partout. Mais le truc, c'est qu'on a... on n'arrive pas à trouver le temps de faire là.
Parce que, donc là, parce que vous travaillez encore.
C'est pas nous.
Ouais. On travaille à côté parce qu'on a le, on fait le cidre et on est, on travaille à côté, donc c'est pas. Pour l'instant, c'est pas, c'est pas notre priorité. Déjà, on se concentre sur l'entreprise.
Mais
Et du coup, Renaissance est née quand, 2020?
2021. Enfin, l'idée est née en 2020. L'idée s'est concrétisée en 2020, on va dire dans nos têtes. Mais 2021, c'était le premier millésime. Ça s'est concrétisé en 2020.
Création.
Voilà.
Ok, il y en a eu deux, le bleu et les rouges, mais on en parlera un petit peu plus tard, c'est ça ?
Il y en a un peu plus. Alors, pour des raisons légales, on ne peut pas en parler plus.
saluer les douanes.
Oui, comme toujours, le manteau est parfois large chez les gens passionnés. Mmh. C'est ce qu'on aime aussi. Bah, c'est comme ça que Emilien a commencé aussi. Hein. Il partait en courant, il cherchait les pommes, il partait en courant, donc c'était différent. Enfin, c'est comme ça. Mais justement, vous rappelez la première fois où vous avez ouvert une bouteille, vous deux, et vous dites, ah, c'est du concret.
De cidre ou...
Oui, de cidre.
Ah, de nous ?
La première fois qu'on a goûté, on avait fait un essai en 2020. Sur le millésime 2020, on avait fait un essai à petite échelle. On avait fait 250-300 bouteilles.
Ouais. En deux fois, d'ailleurs.
Okay. En deux
d'abord,
fois,
On avait fait un arbre. Ouais. Un arbre où on avait, 60 litres ou 90 litres, je ne sais même pas.
Ouais, quelque chose comme ça.
Et après...
100 bouteilles.
Après, un autre truc où on a essayé des monovariétales et des machins comme ça, où on a fait genre 250-300 bouteilles, quelque chose comme ça.
D'accord.
Et mais je me souviens d'un soir qu'on a passé dans la cave de Léo, c'est là qu'on avait cinérifié les pommes ce millésime-là pour les essais 2021. Et je crois qu'on les avait goûtés, mais je me souviens d'une très très bonne soirée. On avait goûté en même temps un loulou 2016.
Très très bon.
Magnifique.
En fait, le premier jet avec les 100% rainettes grises, ça goûtait vite très bien.
Ouais.
Et ensuite, on avait fait un lot un peu plus large dans une graffe de 100 litres. Mmh. Large, à ce moment-là, c'était un peu plus large. Et ça, on l'avait dégorgé. On était des champions. On avait commencé à dégorger un après-midi. Et on s'est rendu compte au bout de la 34e bouteille qu'on avait ouverte que merde, on n'avait pas de nos capsules.
Merde.
Ou c'était pas la capsuleuse. Oui. C'était l'un ou l'autre.
Ouais, en fait, c'était la capsuleuse, je sais plus.
On n'avait pas de quoi les reboucher, quoi. Donc, on était là comme des
gros
avec nos 30 bouteilles ouvertes.
Dégorgées. Quelle a été la réaction de vos proches la première fois que vous leur avez fait goûter le cidre?
Réaction plutôt positive. Ouais, de manière générale, les gens sont plutôt contents et pareil, ils voient la concrétisation du projet, de tout ce travail, etc. Donc c'est un soulagement et en même temps c'est c'est encourageant. C'est encourageant.
Comme il a réagi, il n'a pas fait qu'il écoutait ses signes, il n'a pas je sais qu'il a.
J'étais zéro réaction.
J'étais pas là.
Non.
C'est lui qui a fait goûter.
T'as pas osé.
Mais je lui avais déposé à plusieurs reprises des bouteilles à la cave. Tu goûteras. Je pense
jamais
qu'il
nouvelle.
Les a laissées. Ouais, il les a laissées de côté et tout ça.
Ah, je me souviens que j'avais fait goûter une bouteille à Félix que je salue.
Salut Félix, merci Félix.
Et le lendemain, je crois, le surlendemain, je suis allé on avait goûté une bouteille comme ça parce que je m'étais pointé chez lui, je crois que c'était un lundi soir après le jaja. Il y avait une petite sauterie chez lui, donc je suis passé, on a goûté un cidre et le lendemain, je suis allé chez Jean le faire goûter. Donc Félix était là et il a hypé Jean. Il disait ah, faut goûter et tout machin. Il est là, franchement, ça vaut le coup machin. Et moi j'étais très stressé. Et Jean, au début il y avait pas beaucoup de réactions, mais ça me stressait beaucoup. Et en fait, au fur et à mesure qu'on en a parlé, c'est peut-être moi qui me suis détendu aussi. Hein, mais il avait l'air vraiment d'apprécier. Il avait l'air content. Oui.
Oui. En plus,
hein.
Oui, il en pense fort.
Clairement.
Pas mal, et puis, je pense qu'ils ont plaisir à le vendre. Ça, c'est cidre d'Alsace. Ouais, ouais. Jean, il avait une belle carte de cidre de base. Mmh. Enfin, il y en avait deux, trois.
Il a quelques solides.
Ouais, il a des belles maisons. Ouais.
Et du coup, bah, il nous racontait, Félix. Ouais. Ah, mais c'est quoi? Mais ça, c'est du cidre d'Alsace. Ah.
Ouais. Avait... Oui, et puis apparemment, il y a eu les.
Il avait déjà les pommes à Michel, le chez Binaire, donc.
Oui,
oui, également.
C'est super joli, ouais. Ouais. C'était très bon. Ouais.
Bah, on va parler un peu plus de cidre, parce que je pense qu'il y en a plein qui se posent la question ou qui ne savent pas forcément comment on fait du cidre.
Alors, pour faire du cidre, il faut d'abord ramasser les pommes. Ça, c'est la première étape.
Alors, on va commencer. Comment vous trouvez vos pommes?
C'est alors
on peut en parler ou
non? On peut en parler, oui, bien sûr. Bien sûr. Alors on ne vole aucune pomme.
Non, non, toutes les pommes qu'on
a sont transparentes. Il y en a d'autres qui sont parties en courant, donc à la rigueur, les gens sont
habitués. Tout notre sourcing est transparent. C'est alors la grande majorité, c'est attends, on va commencer par là. Pour assurer un volume un petit peu, pour assurer un volume qui va nous faire tenir toute une année, on achète un petit peu de pommes. Bio au minimum,
oui.
pour pouvoir faire un petit peu de volume sur... parce que pour le moment, on a tellement de variétés différentes, tellement de terroirs différents, tellement de parcelles différentes, on n'arrive pas forcément à regrouper et que ça fasse plus qu'une barrique, quoi.
D'accord.
Donc, dans la cuvée rouge, on pourrait d'ailleurs goûter, là. On achète un petit peu de pommes. On l'a fait l'année dernière, on a acheté 1,5 tonne et cette année, on a acheté 3 tonnes. Voilà. Mais sinon, grande majorité, c'est des pommes qu'on récupère chez des particuliers. Ça, je vais laisser David en parler parce que c'est lui qui a la plupart des contacts.
Alors, tu sais quoi, David?
Ouais.
On va en parler dans 30 secondes, mais d'abord, je vous propose...
Donc le rouge.
Place à la dégustation. Parce que là, on a tous soif. Et, donc, on va anticiper sur la dégustation. De toute façon, on va anticiper le mûrir. Voilà, on va continuer cette discussion et avec un cidre, c'est quand même plus agréable. Ah là 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 là. Je crois que c'est le premier que j'ai écouté. Ce fut le premier que j'ai.
Clairement, c'est un bon.
Que j'ai goûté et qui s'appelle, que je vois, Lucine, c'est ça?
Ils s'appellent tous Lucien. Ils s'appellent pas trop. Ils sont rouges. Ils ont une couleur.
Alors,
sur les images que.
Approche-toi juste du micro, Léo, s'il te plaît, parce que sinon t'es un peu trop éloigné. Alors, qui c'est qui me parle de ce cidre là? Allez, Léo, tu me parles du cidre et puis après tu non, attends, non, stop, je t'avais coupé, j'ai oublié. C'est quand tu vieillis, tu.
Je voulais parler des appros de pommes.
C'est
et du coup, le rouge va pouvoir bien illustrer ça parce que, comme Léo disait,
ouais.
on achète un petit peu de pommes en dehors du Sungo. Donc après, on s'en cache pas. Hein, c'est dit sur la fiche technique, c'est dit partout hein, que dans le rouge, il n'y a pas que des pommes du Sungo. Pour le coup, donc là sur ce cidre 2021. Sur le rouge, on a acheté des pommes à Monsieur Vincent Wagner, qu'on salue.
Salut Vincent.
Monsieur Vincent Wagner, qui est arboriculteur à Rigvire, qui produit des fruits certifiés bio, et qui nous a vendu 1,5 tonne du coup de pommes l'année dernière. Pommes qu'on a assemblées à des pommes du Sungo hein, pour faire la cuvée rouge. Donc là, en l'occurrence, c'est des pommes qu'on a principalement récoltées l'année dernière à Ropensviller, okay. C'est un petit village du Sungo. En fait, j'avais contacté la Comcom quand on a créé l'entreprise pour pouvoir avoir quelques renseignements, machin. Et en fait, j'ai eu un appel téléphonique avec eux qui a duré 2 heures et j'ai beaucoup parlé de l'entreprise et de l'idée, enfin de comment on va fonctionner. Et du coup, ils ont proposé de mettre un appel dans une newsletter qu'ils mettent dans toutes les boîtes aux lettres de la Comcom, quoi, pour dire que voilà, nous on récupère les fruits si jamais les gens ne veulent pas leurs pommes ou leurs poires. Et on a un monsieur qui s'appelle Serge, qu'on salue. Et ce monsieur nous a contacté parce qu'il a un verger qui appartenait à son père qui fait, je pense, pas loin d'1 hectare. Il y a des dizaines d'arbres dessus. Très très beau, très très beau verger, mais qu'il n'entretient pas parce qu'il ne sait pas trop tailler, etc. Donc il nous a proposé qu'on récupère les pommes, en tout cas une partie des pommes, en échange de la taille du verger. Donc on est en train de le restructurer. C'est un grand travail, mais voilà, ça va être sur plusieurs années. Et donc c'est ces pommes-là, les pommes de Serge, qui sont assemblées aux pommes de Vincent Wagner, ici. Et donc pour le faire, on va à Wolschwiller, donc le village qui est juste à côté, pour presser les pommes. Il y a un pressoir là-bas, le pressoir Linder. On salue la famille Linder.
Salut. Salut Robin. Salut Daniel.
Salut Laurence.
Salut Laurence.
On presse les pommes. On ramène les pommes avec notre sidromobile, camionnette. On les ramène à Biedertal et à ce moment-là, on les met dans une grande cuve pour ce qu'on appelle, c'est très élégant, c'est la défécation. C'est-à-dire qu'en fait, en début de fermentation, le cidre fait un chapeau. Ouais. On crée un chapeau, il y a un chapeau qui se forme à la surface, qui c'est en fait un chapeau de pectine qui emprisonne aussi, qui emprisonne en même temps toutes les petites impuretés qu'il y a dans les jus. Et à ce moment-là, quand le chapeau est bien formé, il faut soutirer pour séparer le jus qui a été à peu près clarifié naturellement. Et ensuite, c'est là que la fermentation, le reste de la fermentation se fait. Et donc, ce cidre est fermenté dans des grandes cuves graffes de 1500 litres. Mmh. Et donc il a fermenté combien de temps? Un mois et demi, quand même. Cuve.
En cuve, oui, et après le reste en bouteille.
Un mois et demi en cuve, et ensuite on a mis en bouteille, fin de la fermentation en bouteille pour la prise de mousse.
Mais c'est un pétnat de pommes. C'est pas,
voilà.
pas sûr qu'à l'école. Non, il y a une école.
L'école, c'est l'école.
C'est pas comme ça qu'on fait des.
C'est pas le cidre conventionnel, dans le sens du terme déjà.
Non.
Une presse rapide sur lequel
on a beaucoup de chance
parce qu'il n'y a pas beaucoup de contact avec l'oxygène.
Précision, tous vos cidres sont secs, tous.
Oui,
tous sont.
Et vraiment, donc la plupart du commerce sont quand même des demi-secs ou des demi-doux.
Oui. Et même les cidres secs. Et moi maintenant, dimanche j'ai goûté Zang. Il y avait du sucre.
Ouais. Il y a du sucre. Ouais,
il y avait
ouais.
du sucre. Alors que,
c'était 2018 que t'as goûté.
C'était 18, ouais. Ouais.
Vous préférez demi-sec ou demi-doux? Vous avez la ref ou pas?
Non, on n'a pas la ref.
Le grand restaurant, quand il fait goûter le radis et quand il dit au sommelier, vous voulez boire un verre? Non, demi-sec, demi. Non, je préférais un demi-doux.
Ok, non, je n'ai pas la ref.
Il a fini avec une bouteille d'évian, ça m'a fait penser à ça. Bon, on referme la parenthèse.
Très bien.
Donc là, aujourd'hui, vous faites combien? Alors, c'est quoi? C'est des litres, des hectolitres, des... Vous faites quoi? C'est quoi la capacité que vous avez? Parce que, bon, vous avez un endroit qui est assez petit, qui a de la place quand même. Alors, vous avez un avantage.
C'est le temps aussi qui nous manque.
C'est ça, il y a le temps qui
la
vous
place
manque.
Et le temps.
Après, vous avez quand même, vous avez des habitants qui vous donnent un coup de main. Vous avez la mairie qui vous met à disposition l'ancienne laiterie, qui vous sert entre guillemets de cuverie.
Cuverie, ouais.
Vous avez la grange des parents. Donc tout ça, c'est sûr que c'est des coûts en moins puisque vous avez tout.
Bien sûr.
Si on n'avait pas ça,
on aurait dû emprunter.
C'est vraiment de l'artisanat que vous faites, quoi.
Clairement.
Et c'est dans cette idée de renaissance, refaire vivre le lieu, la grange, qu'elle retrouve un petit peu son utilité, l'ancienne laiterie de la mairie, à part que ce soit un garde-meuble, qu'il y ait une utilité, tu vois, qu'il y ait un petit peu de vie. C'est marrant, là. On traverse la route et tout pour apporter de l'eau dans notre petite laiterie. C'est rigolo.
Oui, parce qu'il n'y a pas d'eau dans la laiterie.
Oui, il n'y a pas d'eau, mais il y a une fontaine.
Il y a une fontaine avec l'autre source.
L'autre source va jusqu'à Lille et à Strasbourg, donc j'aurais pu prendre la barque et je serais arrivé dans la fontaine. C'est pas beau ça? Mais c'est vrai que c'est ça. Alors, en fait, c'est vraiment. En plus, on est dans un lieu qui a un bistrot un peu collaboratif, mais il y a tout ça autour de vous aussi, le côté collaboratif. Et puis tous les gens qui vous soutiennent, quoi. Je veux dire, on en a parlé, on les a vus sur les réseaux sociaux, j'en ai parlé. J'ai toujours pas fait goûter Adrien, mais il va falloir que ça change.
C'est vrai que c'est un projet presque collaboratif, dans le sens. Après, je pense que n'importe qui se lance comme ça a besoin de ce genre de
bien
soutien.
Bien sûr, mais pour moi, c'est vraiment le signe de copain, en fait. C'est que c'est vous qui êtes les auteurs, mais derrière, vous avez mis des influenceurs, tout le monde qui influence un petit peu derrière, que ce soit les rencontres que vous avez faites. Et après, si c'était pas bon, personne ne le ferait. Hein. Donc, de toute façon, donc ça veut dire que c'est bon.
Il y a ça. C'est rassurant.
Mais c'est vrai que, du coup, vous faites combien de bouteilles? Là, vous avez fait pour le premier millésime, vous avez fait combien de bouteilles?
On a fait 3000 bouteilles et 150 magnums pour le premier millésime. Et là, au deuxième millésime, on a un peu plus que doublé.
Ouais. Voilà, c'est des. Enfin, ouais, en hecto, l'année dernière, on a dû faire 30 hectos. Et cette année, on fait un peu plus de 65 hectos.
D'accord.
C'est ça.
Ok. Et par rapport aux pommes, donc vous les récupérez. J'ai cru que l'année dernière c'était compliqué avec 2000 matières. Aujourd'hui, tu as des habitants qui te contactent encore. J'ai des vergers parce que moi je trouve ça génial que ils permettent aussi de vous mettre à disposition des pommes pour vous aider. Ça aussi, c'est des coûts en moins. Même si vous entretenez un verger, toi tu parlais dernièrement qu'au mois de septembre tu t'as pris du temps pour toi avec bichonner un verger, c'est ça? Avec le chien de ta copine.
Sans sol depuis, oui. On était dehors presque tous les jours, quoi. Mais c'est clair qu'en termes de coûts matière, les pommes ont. Bon, cette année, on en a récolté plein qu'on n'a pas payé. Mais après, en termes de main-d'œuvre, on va dire, entre le temps qu'on passe en hiver pour tailler. Et le temps qu'on passe en été à récolter, c'est ça le coût en fait. C'est pas tout à fait du négoce dans la mesure où c'est nous qui entretenons quand même les terrains.
Et si je peux me permettre, c'est le but du projet, c'est justement ça, c'est d'utiliser des fruits. Des fruits qui en fait sont abandonnés finalement et qui ne seraient pas utilisés. C'est d'utiliser la ressource qui est là, qui est disponible, un jour faisait partie de l'économie familiale du Sungo, du Jura alsacien. Chaque famille avait un verger et il était entretenu, exploité. Il était important pour la famille et pour manger, pour son économie. Les gens distillaient les fruits, ils vendaient les bouteilles, ça faisait les bouteilles de viol, ça faisait un peu d'argent. C'était valorisé, oui. Alors que là, maintenant, c'est complètement abandonné. On a un patrimoine arboricole qui est en train de mourir complètement. Les paysages changent. Hein. Quand un verger qui meurt, c'est un champ de maïs qui naît.
Planter les arbres,
voilà.
Parce que
voilà, c'est ça l'idée.
C'est un peu la même réflexion qu'on se fait sur les vignes aujourd'hui. On a tous des copains vignerons, que ce soit Vincent, que ce soit Ericam, etc., qui sont loin des rangées de vignes Ikea où tout est beau, tout est. Aujourd'hui, il y a le retour des arbres, des nichoirs, des. Je parlais avec qui? Avec Valérie Beyer dernièrement, avec Gisheim. Qui disait qu'elle se bat pour que les murets reviennent pour les lézards, ce genre de choses. Donc il y a une vraie réflexion aussi. C'est pour ça que je dis souvent, pour moi, vous êtes les premiers, entre guillemets, bons, vrais écolos, parce que vous avez cette réflexion à la fois. Pour moi, un écolo, c'est quoi? C'est quelqu'un qui pense ou bien à l'assiette, à ce qu'il mange, évidemment, d'où ça vient, mais aussi en haut, avec les oiseaux, en bas, dans le sol, et qui fait vivre toute cette biodiversité-là, bon, plus les mammifères qu'on voit, les sangliers, etc. C'est ça qui est important, et je pense que vous avez une espèce de... en fait, vous récupérez des choses souvent de personnes âgées ou de familles qui vous permettent aujourd'hui, plus que de l'argent, de créer quelque chose qui fonctionne bien. Et qui donne envie de boire, parce que je trouve, alors, que ce cidre-là, la première fois que j'ai goûté ça, j'ai trouvé que c'était un. Alors j'ai beaucoup goûté le rouge, et un jour je suis arrivé chez Marcus, il avait le bleu qu'on goûtera après.
Oui.
Et donc là j'ai pris la bouteille, il y a un taux de buvabilité assez incroyable également. C'est ça qui me plaît beaucoup, c'est que c'est facile, c'est gourmand. La bulle est là pour le rouge, en tout cas, puisqu'on parle du rouge. La bulle est très fine, c'est très léger. On sent le fruit, Et ça c'est génique. Quoique, la pomme et le goût de la pomme est là, mais c'est pas bon, c'est pas une manzana, quoi. C'est pas. C'est très fin et c'est ça que j'aime. Et ça vous ressemble en fait.
Ouais. Et tu vois, je pense que, enfin, là, je veux parler un peu pour moi, dans le sens où je pense qu'on s'est jamais vraiment concerté sur qu'est-ce qu'on a profondément envie de faire. Mais par contre, moi, je sais que j'aime bien boire des canettes et enfin, c'est dans l'idée, c'est de faire un truc comme ça sur le partage et sans grosse prise de tête. Et puis, ça se fait assez naturellement. C'est pour ça que je dis ça. Je dis ça un peu pour moi, dans le sens où, ouais, comme dit, c'est pas, on n'a pas une stratégie de production, de commercialisation vraiment très aboutie. Je pense qu'on fait ce qui nous plaît, et comme tu dis, c'est à notre image, parce que on s'est rencontrés en buvant des canons, on fait des trucs qu'on a envie de boire, et moi je suis content qu'on ait réussi à faire un truc avec un indice de torchabilité très élevé, et ça me fait plaisir de voir que, même avec mes parents. Je leur mets la bouteille au frigo, je leur dis, quand il y a un rayon de soleil, vous ouvrez ça, il la tombe en 2 minutes, ça fait plaisir, quoi.
Ouais, ça se boit facile, et puis ça donne le sourire. Moi, je suis désolé, mais je trouve que j'aime beaucoup le cidre, et c'est vrai que c'est une boisson qu'on a, et je suis aussi content qu'on en fait, un peu plus en plus en Alsace, donc ça va y agrémenter aussi le podcast, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui parlent de cidre, donc ça c'est bien. Mais c'est vrai que là, celui-là, il a un taux de buvabilité assez incroyable, quoi. Et je trouve qu'il est, il est accessible. Et après, c'est peut-être ça le but aussi d'un cidre, hein, c'est qu'on n'attend pas de philosopher comme sur un grand cru où il n'y a pas tout le côté un peu pompeux du vin. On l'a pas mis dans. J'ai pas l'impression que le cidre, on l'a tellement mis dans une case, alors que le vin est dans une case.
Au contraire, je pense qu'ils sont allés dans deux cases radicalement opposées dans l'imaginaire collectif, quoi. Mmh. Parce que le cidre, c'est devenu. Le vin est devenu élitiste, comme on disait tout à l'heure, et le cidre, ça a été vraiment.
Populaire un peu.
Ouais, c'était la boisson populaire, c'était un peu même vulgarisé, limite.
Comme la bière, si la bière tend parfois à être un peu trop élitiste.
Je pense, oui, mais en vrai, dans le cidre, tu regardes Bordelais, ou c'est des cidres de sommelier aussi. En fait.
C'est très bon d'ailleurs.
C'est très très bon. Ouais. Très bon. Il a fait son nom là-dessus, justement sur l'élitisme en fait du cidre, avec des poirets sur du granit et tout ça. Il y en a des très très grands.
C'est un très bon travail.
C'est grandiose. Et heureusement que le cidre a maintenant cette place, parce que maintenant il y a des noms qui se retrouvent sur des tables étoilées, et qui sont au même niveau que certains grands vins, et donc c'est super d'avoir cette partie quand même boisson un peu populaire, un peu plus facile à boire avec un petit degré, et d'avoir des produits qui sont un petit peu plus aboutis sur des grands terroirs. Je pense à Antoine Marois ou Jérôme Forget, qui font des poirées avec des poiriers centenaires, qui font des choses absolument incroyables.
Et puis les pommes rares qui reviennent aussi. Oui. Ceux qui ont, on parlait du jus de pomme de Michel. Elle fait ça avec la Krischkennel, qui est une pomme près dans la vallée de Münster. Mm-hmm. Tout au bout, s'il y a du gel, il n'y a pas de pomme. Quoi, donc, qui est un jus de pomme. Bon, c'est vrai que quand on voit le prix au début, on se dit mais il y a du travail derrière. Mais c'est vrai. Moi, c'est la première fois où j'avais mis 10 euros dans un jus de pomme, ce qui m'est très sans alcool, je précise.
Oui, bien sûr.
Les gens qui me connaissent, ils disent oui, mais c'est ça, mais parce qu'il y a un travail derrière aussi. Et le travail, à un moment donné, défendre ce patrimoine aussi de fruits, de cépages oubliés, même dans les légumes. Et je trouve que ça, c'est une bonne chose. Et ça, mes amis. Si vous voyez une belle étiquette rouge avec un rond d'ailleurs qui parle de l'étiquette, ça, ceci était.
Je pense que Léo peut en parler.
Qui est l'artiste.
Allez.
c'est un sens ou c'est.
Oui, alors c'est très profond en termes de sens.
Alors, la question, est-ce qu'il était bourré?
Oh, certainement.
Ça dépend, est-ce que c'était avant 10h du matin?
D'accord.
Non, étiquette, c'est au même titre que le nom. On a, t'as plein d'idées, t'arrives pas forcément à prendre une décision, c'est très compliqué, et puis c'est, enfin vraiment, moi c'est le pire, c'est le truc qui m'angoisse le plus,
les étiquettes,
les noms, les noms des cuvées, les machins, les bidules.
Pour le nom de l'entreprise, on était jusqu'au dernier moment devant la banquière, elle a dit bon, il me faut un nom du coup pour enregistrer le machin, et on s'est regardé, on s'était toujours pas décidé, on s'est décidé sur le moment quoi. C'est très difficile. Désolé, j'ai coupé.
Mais... Non, mais c'est vrai. Ça image bien l'angoisse quoi, ouais. Par rapport à
ouais.
faire du jus, pas problème. Enfin, trouver des noms, c'est plus compliqué.
Ouais.
Et là, du coup, le fruit de cette longue réflexion, on a vu avec plusieurs personnes, avec Alexandre Albizère, qui est un gars qui est bourré de talent, qui est sur Grenoble, qu'on connaît indirectement.
Qu'on salue.
Merci d'ailleurs pour nous avoir consacré ce temps. On avait vu des choses dans un style très très particulier, un peu épuré comme ça, un peu noir et blanc et tout ça. En fait, le fruit de la réflexion, ça a été, c'est quoi, si on n'arrive pas à prendre de décision, trouver de logo, de méchant, je sais pas quoi, on met un truc, une seule couleur et puis voilà. Il y a une cuvée des frères Soulier qui s'appelle Prime, mm-hmm. qui est imprimeur.
Ouais.
Et c'était un peu dans cette idée-là, quoi,
cette idée-là, ouais.
Un truc très brutal mm-hmm. où t'écris le moins possible. Hop là, on fait des cuvées différentes, on a qu'à changer la couleur et puis.
Moi, je trouve l'idée bonne parce qu'aujourd'hui, on parle de réseaux sociaux, que tout doit être graphique, visible, marketing. Bah, c'est un peu marketing où il y a la couleur.
Ouais, c'est vrai.
Ça change de couleur.
C'est un peu très marketing, on dirait.
Et ça, c'est bien.
C'est pas le cas.
Et ça marche et je trouve qu'il y a alors. C'est ça que j'aime bien aussi dans le vent, hein, c'est qu'il y a une évolution dans l'étiquette. C'est sûr que l'étiquette de papa tend à disparaître. Là, nous sommes sur le bleu. Bah, en fait, finalement, les appeler par la couleur, ça peut être pas mal, quoi.
C'est facile. On parle de la même chose.
Ben, c'est ça, parce que bon, nom qu'on a eu à la cuvée des amoureux avec le rouge, ou j'irais la cuvée des garçons. Dans l'ancienne France aussi.
Oh là là.
La cuvée des garçons.
la cuvée solaire, le bleu. Hein. Alors, c'est quoi? Déjà, c'est fait avec amour, mais les deux, j'aime bien.
Les deux sont faits avec amour.
Et ouais. Surtout, il y a plein d'intrants. Donc, c'est de la pomme, rien que de la pomme, c'est ça?
Rien que de la pomme. Et ça, du coup, c'est que de la pomme du Shungo.
Et?
Pour le coup.
On va comme passer le bonjour à monsieur Grégoire Jacquot.
Oui.
Oui.
Oui, on va passer
vous,
le.
Vous voulez qu'on en parle?
Allez.
Non, mais parce que. Grégoire Jacquot, c'est un sidériculteur lorrain qui officie à Rayon.
Désolé.
Non, mais c'est... salue Grégoire.
Il y a des dossiers ou
non, il n'y a pas.
Non, c'est pas ça.
Alors, si on peut.
Je ne connais pas cette personne, je ne sais pas qui c'est.
Non, c'est pas ça. Alors, c'est vrai qu'on t'a peut-être pas expliqué.
Bon, on peut le dire. On est dans une optique de transparence, alors.
Bien sûr. Alors. Donc sur nos bouteilles, donc on revendique un cidre du Shungo, mais sur les bouteilles c'est écrit « Cidrifié par nos soins et mis en bouteille à la cidrerie de Rayon, à Rayon, dans le 54 ».
Le 54 n'est pas dans le Shungo
Non. Non, peut-être pas. Non. Et alors en fait c'est parce que, comme on t'a dit, la grange n'est pas agréée par les douanes. Quand on fait de l'alcool, on doit être agréé par les douanes.
Ouais.
Payer des droits dessus. Ce qui nous dérange en rien.
Ce qui est normal.
Ce qui est absolument normal. Et on a envie de payer ses droits. Le problème, c'est que la grange est derrière une maison d'habitation, un domicile privé, ce qui fait que la cour est considérée comme une partie privée, ce qui fait que les agents des douanes n'ont pas le droit de pénétrer dans la cour. Il n'y a aucun problème avec la grange. Mais les agents des douanes n'ont pas le droit de pénétrer dans la cour. C'est pour ça qu'on n'a pas été agréé en 2021.
Plutôt que du droit d'exercice.
Droit de visite domiciliaire.
Ça, on pourra en parler des heures parce que je pense que ça intéresse tout le monde. Tout ce qui est l'administratif, les douanes.
Surtout qu'en France, c'est pas compliqué.
Non, tu sais, ce qui est bien, c'est que tu as toujours un interlocuteur.
Différent.
Compétent et qui sait de quoi il parle en fait, toi, et du coup tu t'avances, enfin c'est
non mais
c'est pas mal quoi.
C'est vrai, l'administration française est la plus simple du monde, c'est bien connu.
Ils nous ont quand même dit il n'y a pas de cidre en Alsace.
Hein.
Non mais vous êtes au courant, mais vous achetez des pommes en Normandie du coup.
Comment vous faites venir les pommes?
Non, vous faites pas de cidre.
Après, je peux pas leur en vouloir. N'oubliez pas que dans la grande distribution, lors de la saison des pommes, on trouve des pommes d'Argentine. C'est quand même.
Oui, bien sûr. Mais après, c'est des gens qui, de par leur profession, de par le pouvoir qu'ils ont, devraient, avant de dire des choses comme ça, peut-être être formés ou avoir un minimum de connaissances. Quoi, parce que
pour ça, si pour prendre le temps.
Tu dis de prendre le temps, mais s'ils s'arrêtent à là, c'est pas possible de nous agréer, excuse-moi. Mais
c'est vraiment.
Goûter les cidres du rayon, parce que c'est vraiment c'est très bon.
C'est très sympa. Très intéressant.
Et surtout ce novembre qui me plaît beaucoup, celui qui est fait avec coin et pomme, que j'aime beaucoup. Et puis en plus, c'est un mec qui est vachement sympa, donc ce qui ne gâche rien. Revenons à notre bleu.
Voilà.
Alors, le bleu, alors, moi, de ce que je vois déjà, la couleur, on sent qu'il y a une fermentation un petit peu plus longue, une macération.
Une fermentation, pas de macération.
Ok. Parce qu'il est un peu plus sombre, déjà dans la couleur, la robe, elle est un peu plus teintée que le premier, j'ai juste.
Tout à fait.
C'est tout à fait vrai.
Tout à fait.
Mais déjà, donc je, bah après, j'ai un peu vu sur les étiquettes, mais c'est vrai que c'est quoi? C'est des vergers qui sont plus vieux, c'est ça?
C'est alors pas forcément. Enfin, si je pense parce que du coup dans le rouge, t'as un mec qui avait les pommes de Vincent Wagner, qui a aussi des cultivars, des arbres qui sont très jeunes, qui sont remplacés toutes les décennies. Donc là, c'est effectivement des vieux vergers aux tiges du Sungo uniquement. C'est des vieilles variétés. Vraiment, la couleur vient peut-être de là parce que t'aurais dû voir les pommes. C'était des peaux très épaisses, rugueuses, etc. Je pense que il y a pas mal de tanins, etc. qui ont été transmis dans les jus, même s'il n'y a pas eu macération. C'est une fermentation effectivement beaucoup plus longue. Le rouge, on était sur un mois et demi. Là, on est sur presque 4 mois.
C'est les premières fermentations qu'on a récoltées avec 3 semaines de séchage. Vous vous rappelez que 2021, c'était quand même une année super compliquée en termes de flotte.
Très mouillée, oui.
Du coup, 3 semaines de séchage, pommes qui viennent de Michel Bar, pour la plupart.
Michel Bar, oui.
Et après,
Europen Zuller.
Et après, un petit peu
Wiedertal.
Les deux armes, quoi.
Mais c'est pareil, on est sur une. Alors, la longueur est un peu plus présente sur celui-là que forcément l'âge. L'âge fait aussi. Enfin, le travail qu'il y a derrière, la fermentation plus longue. Mais pareil, ça va droit devant. Ce serait du vin, on serait sur un Riesling, un peu sur schiste ou. Par contre, autant celui-là, je le mettrais le premier, le rouge, je le mettrais entre les mains de gens qui n'ont pas trop l'habitude de ce type de cidre. Celui-là, je pense qu'il a un.
Il
a un peu plus de complexité, mais dans le sens où il faut déjà l'expliquer un petit peu plus. On sort dans le cadre d'un cidre, même le premier, il n'est pas du tout dans le cadre cidre classique.
Oui.
On goûte rempli de sucre, loin de là. Mais celui-là, je prendrais plus sur un zang ou ce genre de maison-là, tu vois.
Bah, t'as ce côté un peu pot de pomme, un peu qu'on disait avant, un peu. Ma série en
fait.
Et c'est peut-être parce que là-dessus il y a de la barrique. Avant la bouteille, on a fait de la barrique. Et c'est la récolte la plus tôt.
On sent le bois,
Récolte la plus tôt, on a fait plusieurs sous-tirages. Ouais. C'est aussi peut-être l'oxygène qui teinte un petit peu la couleur, qui le rend un petit peu plus orangé. Et après, c'est entre 4 et 5 mois de barrique.
Un cidre Halloween, il est orange. Non mais c'est franchement, c'est moi je trouve voilà, c'est frais, c'est gourmand. Après c'est pour ça aussi que je suis là, hein, c'est que dans la découverte je savais que les choses étaient gourmandes et de ce que j'ai goûté aussi ce matin, il y a une vraie réflexion, il y a une vraie création, il y a un truc qui les dégage de tous les deux, c'est cette déjà, votre regard, vous êtes passionné, ça se sent, et surtout quand les gens goûtent ça, et moi je trouve que sublimer le cidre, comme ça, souvent on dit, donne-moi un verre de cidre, tu vois, comme on boit une bière, mais là, je pense qu'on a passé un cap, et je pense qu'on peut même passer des soirées à boire ce genre de choses, sans boire de vin ou de bière, et que ça fait une belle petite soirée, même sur. Et ce qui serait intéressant à réfléchir, et c'est là où Mickaël, ex-Paulus, pourrait être intéressant, c'est de réfléchir à une soirée un peu bistrot, mais pas bistronomique, hein, bistrot simple.
Oui.
Avec des jolis accords.
Avec des jolis accords, réfléchir à quelque chose. Je pense qu'il faut, il faut faire voyager les papilles et les palais des gens. Bon, par contre, des gens, je les masque. Hein. Ils ont les yeux bandés et je veux pas qu'ils sachent ce qu'ils goûtent ou comment c'est goûté, etc.
Ça, ce serait très intéressant.
Vraiment une soirée mystère, une station du début à la fin. Personne ne sait ce qu'on boit, ce qu'on mange. Il faut juste que les gens fassent confiance. Je pense, je trouve que c'est très gastronomique et il y a quelque chose de frais. Et en fait, on est bien, quoi. Et la buvabilité est là.
J'aime bien les sites de paysans, les sites qui font, qui s'appellent des torboyaux, qui donnent la chiasse tout de suite.
C'est reparti, alors place au troisième, j'ai failli dire troisième vin, mais non, place au troisième cidre. Et oui, on parle bien de cidre. Qu'est-ce que c'est bon d'être chez Renaissance, là, de voir Léo et David, David qui me disait oui, moi j'ai pas trop l'habitude de parler au micro, et il fait ça, on a l'impression que ça fait.
En fait, ça va.
Il y a Guilux qui est entré dans son corps, c'est très bien. T'es plutôt à l'aise là ?
Ouais, ça va, je suis plutôt à l'aise.
Et toi, Léo ?
Bof, non. Ouais, non,
ça va. C'est vrai que tu es connu pour être timide, c'est bien connu. Allez, place au troisième cidre, et cette fois-ci, c'est une de mes c'est ma couleur préférée, c'est le violet. Moi j'avais mon mauve. On part sur quoi? Mauve,
violet, oui. Rose, mauve, violet, voilà. Violet. Nous on l'appelle Gewürz parce que c'est avec du Gewürz.
Ça me.
T'avais pas tout à fait tort quand tu disais troisième vin.
C'est ça. Mais on est vraiment sur encore une fois une réflexion un petit peu différente parce que bon déjà dans la couleur on est un peu sur le bleu, on est en termes de robe, hein, on a un peu la même robe. Mm-hmm. Alors je précise quand même, on l'a pas précisé depuis le début, mais il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Ce sont des cidres qui ne sont absolument pas filtrés.
Ni filtré,
ni sulfité, ni soufré,
ni rien.
C'est du de la pomme.
Du dégorgement quand il y a assez de gaz.
Pas collé. Voilà.
Mais
c'est pas collé, il y a pas de poisson.
C'est la seule intervention mécanique.
Oui.
Alors déjà, le nez me plaît beaucoup parce que le nez est un peu aguicheur. Et encore une fois, là, on va rentrer. J'ai quand même l'impression qu'on passe d'étape en étape. C'est comme dans un jeu vidéo là. On était au niveau 1, on avait le rouge, le cidre de copain. Et là, on rentre dans une dynamique déjà au nez qui est un petit peu plus aguicheuse, qui te dit vas-y, bois-moi, je suis là et écoute-moi. Et j'ai l'impression qu'on va retrouver dans cette sensation la même chose qu'on retrouve dans le vin, c'est-à-dire que je dis toujours qu'il y a des vins qui sont là, ils sont sur la table, ils font partie de l'événement, on parle pas forcément d'eux, et t'as des vins dont tu vas parler et qui sont là aussi, mais on en parle un petit peu plus. Les deux sont là, mais ils ont pas le même impact sur nos discussions. En fait, il y en a un qui participe parce que on est bien, et t'en as un, il participe aussi parce qu'on est bien, mais on en parle. Et c'est ce que moi j'appelle en général des vins de copains. Tu fais pas longtemps, tu fais pas une dissertation sur des vins de copains. T'as plutôt l'habitude de faire les choses sur les grands crus, les Ferber, etc. Et j'ai l'impression, ça me surprend assez que sur Ossine, on a cette sensation-là aussi. On a le rouge qui va être là, on n'en parle pas forcément, mais il me permet de se désaltérer et surtout de faire ce que j'aime le plus au monde. Et je pense que c'est la sensation qui va sauver ce monde, c'est la convivialité, l'envie d'être ensemble, le plaisir d'être ensemble. Et t'as les deux autres.
C'est celui qui est le plus clair.
Et c'est le plus entamé. Et t'as les deux autres qui vont jouer ce même rôle-là. Par contre, on va plus un petit peu en parler. Oui. Et surtout celui-là, parce qu'il a un nez qui me rappelle du vin. Je me trompe ?
Non, il y a un peu de raisin dedans. On est dans le thème du podcast, c'est super. On retourne un petit peu dedans.
De toute façon, même.
Donc, des pommes, du raisin et des papilles.
On est sur un cépage bien alsacien, là. Hein.
Exact.
Et une petite avec une belle macération.
En fait. Alors, en fait, c'est la même base de jus que les bleus.
Ouais.
Sauf que, tu sais, on parlait du. Dans la fermentation du cidre, tu as une étape de défécation. Qui sont c'est la première semaine de la fermentation en fait. Et là, dans cette base de jus, on a fait macérer infuser si on veut, des mares de Gewürztraminer, du grand cru Persischberg de chez Denis Ebinger. pendant 7 jours, pendant le temps que le cidre fasse sa défécation, et qu'on a soutiré après. Et...
Ah, mon cher Denis, comment dire
Qu'on salue.
Merci. Salut Denis, merci Denis.
J'ai goûté Denis, enfin un vin de Denis, ne vous emballez pas, il n'y a pas longtemps, chez Pantalou. Alors j'ai oublié le nom, attends, je
retiens ça.
Rimsou, oui.
Macération de Riesling en oxydatif, là.
Très magnifique.
Ouais, ouais, c'est grandiose.
Très bon. Et
Il y a pas,
je suis rentré en Cotalou, Géraud, j'ai un truc à te faire goûter. Voilà, bah, pour 10 euros le verre, je veux bien le goûter tous les jours. Ça me pousse pas,
ouais,
absolument
c'est super
pas.
Stylé.
Et c'est très bon. Et du coup, comment on fait un cidre? Alors, c'est quoi?
C'est Nathan qui nous avait. Nathan Silva, qu'on salue. Qui nous avait
salut
dit.
Nathan, salut Wally.
Qui nous avait dit, vous voulez pas faire macérer des raisins dans les jus? On n'avait jamais pensé à ça. Et alors, on a essayé.
Il y a Maxime Verly, son ouvrier.
Oui.
Lui, il a fait des gros sacs avec des baies de Gewürztraminer ou autre.
Okay.
Et il les plonge dans le raisin. J'ai une photo.
Dans le jus de raisin?
Dans le jus.
Ouais, dans
ouais,
le jus.
C'est aussi Jean-François Ganglager, il fait aussi beaucoup ça.
Il y a Ganglager
qui
fait ça.
Tu fais des infusions. Ouais.
C'est qui a, j'ai entendu récemment, il y a quelqu'un qui fait passer du jus sur des mâts. Comme ça, juste. Je sais pas comment il fait, mais juste faire passer. Oh là là. On dirait comme ma belle-mère fait une choucroute avec les sachets d'épices.
En fait, c'est, on reste sur. Cette sensation d'avoir un thé, quoi. Et cette idée de faire du thé, oui, il y a toujours des photos avec moi. Mais je trouve que. Alors là, par contre, on est sur. Autant les deux autres, je les connaissais, et celui-là, je ne le connaissais pas. Donc c'est le premier que je ne connais pas.
Alors il y a eu une barrique.
Il y a une barrique. Okay. Et je pense qu'il va falloir en faire plus la prochaine fois, hein, je vous le dis tout de suite. Parce que ça va être un énorme succès, ça je le voyais, ça c'est, je le vois sur, je le verrais bien sur une belle table en fait, une grande table, limite un étoilé, et je pense que ça aussi, alors parce qu'on fait aussi des choses pour que les choses soient partagées et que d'avoir un vin ou un cidre sur une belle table étoilée, voilà, même si on dit étoilé, mais c'est quand même bien, et puis de temps en temps,
bien sûr, mais oui. Et ça valorise un petit peu, enfin ça donne une certaine légitimité à ton boulot, je trouve. Et les vins nature en ont besoin. Enfin, ce qui est
tu vois,
un peu de pirates ont besoin de.
Quand je goûte ça, ça donne la légitimité à ce que je fais dans le podcast, et ça me dit que voilà, il faut se battre pour ce genre de produit-là, pour les gens qu'on aime comme ça, parce que il y a de la passion, oui, il y a de l'amitié évidemment, et moi, qu'est-ce que je suis fier de goûter ça. Mais je suis tellement fier de dire, voilà, on défend ça, on défend ce terroir-là. Ah, tiens, d'ailleurs, on peut parler de cidre et de terroir. J'ai failli l'oublier.
Ben...
C'était une question que t'as
merci
préparé,
mes ça. Émotions.
Là, c'est un peu compliqué, étant donné qu'on ramène un produit exogène à notre coin, mais après, le terroir. Dans la définition de terroir, il y a aussi il y a un gros côté humain, donc...
Ouais.
Et étant donné que là, enfin, historiquement, c'était des cidres un petit peu plus comme le rouge qu'on faisait dans le coin, des cidres de soif, quoi.
Mm-hmm. Tout à fait.
Donc, je sais pas si on peut vraiment parler de notion de terroir, mais il y a une notion d'identité, peut-être.
D'identité. T'es d'accord?
Bon, sur la notion d'identité, ouais. Mais maintenant, je pense qu'on peut, oui, comme dit chez nous, c'est difficile de parler de cidre de terroir pour l'instant. Mais je pense que une fois que on pourra faire des parcellaires, isoler des barriques et faire isoler des pommes et des jus qui viennent d'une seule parcelle, je pense qu'on pourra voir du terroir qui
ça
ressort.
Ça existe dans le cidre déjà, du parcellaire du...
Bah oui, on parlait d'Éric Bordelais tout à l'heure, qui fait ça, hein, par exemple. Ouais, ouais, ouais.
Ben c'est parfait. Non, mais c'est... Franchement, voilà. Encore une fois, on est sur des choses précises, gourmandes. Alors évidemment, quand on parle de cidre gastronomique, surtout, n'ayez pas peur, hein, c'est accessible à tout le monde. Et si vous voulez juste l'ouvrir Bon, après, regardez pas une série Netflix. Je trouve ça tellement dommage de passer du temps tout seul. Partagez-le avec des gens que vous aimez. Ça, c'est vraiment. J'ai envie de dire, allez, le premier, c'est l'histoire pour l'histoire d'un soir, comme ça, si vous avez envie de vous désaltérer. Deuxième, allez, on s'est déjà rencontrés, mais sans plus. Et celui-là, on marque déjà un peu plus. On n'est pas encore aux fiançailles, mais enfin, on s'approche.
On parle de quelque chose.
On avance. Voilà.
On va dans quelque chose d'un peu plus sérieux.
Mais ça garde quand même une belle légèreté, une belle gourmandise. Voilà. Alors, on monte en degré à chaque fois, ce qui est tout à fait normal. Mais on reste sur des choses gourmandes, accessibles et
ça reste digeste. Ça reste pas très digeste. Alors,
j'ai pas envie de prononcer ce mot-là, mais il faut que je le prononce. Place au quatrième, Sine.
Place au quatrième. Alors, on va juste le mettre de côté celui-là parce que quand on le goûte, qu'il a un petit peu d'ouverture, c'est l'aromatique.
De toute façon, on va en goûter tout dans l'autre sens. Regardez pour nous. On partage pas tout, nous.
Non, mais ça, c'est vraiment chouette. Ou même, l'autre fois, je l'ai bu, c'était chez Léo, et on a sorti juste une carafe, comme ça, et on l'a carafé tout légèrement, juste versé tranquillement, comme ça, et après, directement dans le verre, et du coup, ça a permis de l'ouvrir instantanément, et c'était vraiment, il s'est détendu, c'était vraiment super chouette. Là, c'est un petit peu...
Dans tous les sens.
Ouais. Ça, je pense que c'est...
La gourmandise.
C'est du tartre... Truc tartrique un petit peu qu'il y a dans les lits ou
possible
parce que là ça fait vraiment effervescence type comment te dis Doliprane en fait.
Ah là là, alors la couleur. Les couleurs.
C'est celui-là, c'est ça? Pardon?
C'est celui-là?
Non. Alors celui-là, il n'y a pas d'étiquette parce qu'on n'a pas d'étiquette.
D'accord. Et donc il aura quelle couleur?
C'est pas nous qui... Il n'aura pas de couleur. C'est pas nous qui fait dans l'étiquette. D'accord. On parlait de Nathan et...
Ah, c'est Nathan.
Tout à l'heure. Et ouais, en fait, ça, c'est pareil, c'est une marique qu'on a faite. C'est aussi des raisins qui nous viennent de chez Denis Heminger.
Ouais.
On a fait infuser pareil 7 jours en début de fermentation, sans remontage ni pigeage. Et c'est des mares de Riesling du Grand Cru Sommerberg.
Des mares de Riesling.
Mares de Riesling du Grand Cru Sommerberg, oui. Donc, c'est les mêmes jus que pour le Mauve tout à l'heure. Et là, c'est pareil, fermentation en barrique et prise de mousse naturelle après mise en bouteille. Et effectivement, c'est un jus normalement qui ne verra pas l'Alsace. Et...
Bah si, il a vu du raisin des papilles.
Oui, là déjà, il a vu. Ouais. Non, mais que l'Alsace ne verra pas.
Mais... Attendez, il verra pas l'Alsace, j'ai pas encore goûté. On va pousser à la négociation. Oh là là, j'ai quelques arguments. Monsieur Silva, vous l'avez pas encore en exclusivité mondiale et intergalactique. Hein. Je vais peut-être mettre mon grain de sel. Parce que vu le nez, j'ai vraiment. Alors, je commence à avoir envie de mettre mon grain de sel, mais j'ai pas encore goûté. Donc, peut-être que j'aurais pas envie de mettre mon grain de sel. Bah, savoir. Est-ce que je vais avoir envie de mettre mon grain de sel ou pas? Alors, pareil, on a la caractéristique du Riesling. Avant, on avait vraiment les aromatiques du Gewürz. Et là, ça fait le droit. Hein. Là, c'est. Alors, il est sur quoi comme sol, ce grand
Sommerberg, c'est des granites.
C'est des granites. Hein.
C'est des granites et c'est une parcelle qui est très, très pentue
ça sent.
Tout en haut du Sommerberg.
Ça sent du. Des trucs. La droite devant, il ne cherche pas.
Après, il y a la. Moi, c'est l'effervescence qui me dérange un petit peu là. C'est peut-être un peu trop mousseux. J'aimerais que le gaz il soit un peu mieux intégré.
Ouais.
Je pense qu'il reste un petit peu de sucre et que c'est.
Un peu de sucre, ouais.
Enfin, il devait en rester et que c'est reparti un peu. Enfin, c'est pas de. Ouais, faudrait un peu le dégazer au moins. Enlever ce côté un peu mousseux qui prend toute la bouche. Mais sinon, j'aime beaucoup l'aromatique.
L'aromatique est extraordinaire. C'est vrai qu'il y a plus de bulles que sur les précédents. Et voilà, c'est comme ça. Hein. Il est jeune aussi. Hein.
Ouais, mais tu sais, c'est sur des textures de bulles, je trouve. Ouais. T'as un côté un peu... Là, c'est vraiment mousseux. C'est-à-dire que ça t'occupe vraiment toute la bouche et que t'as du mal à avaler un peu de jus ou même faire le grumble. Mais ouais, c'est pour ça que j'aime bien quand c'est un petit peu... T'en as bulé un chouïa mouilleux.
Bah alors, on va faire un truc. On va le laisser s'ouvrir et on reviendra dessus. Qu'est-ce que vous voulez?
Non, je pense que... Bon, j'ai mis un peu en carafe, on verra comment ça réagit.
C'est bon, au-delà de la bulle, moi je trouve ça très bon.
Très bon.
Oui, moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Après, on sent que c'est de Riesling, là. Il est là, hein, mais... Et pourquoi il a eu cette envie, Nathan? Il y a quelque chose derrière, il y a une volonté, d'accord, il a eu... Ou c'est juste parce qu'il a...
C'est des zinzins, les deux.
Ok.
Je sais pas, ouais, non, c'était une...
Je pense qu'ils ont beaucoup d'idées. C'est...
Ouais.
Parce que lui, il travaille où, Nathan?
Bah, c'est déjà... sur mer, à Paris.
Ok. Et donc, c'est pour ça...
De l'ancrerie dans le
3e arrondissement de Paris.
Je sais pas. Je ne connais pas
si bien Paris.
Ouais, moi non plus.
Je suis pas assez.
Mais je lui ai longtemps jeté un caillou pour qu'il fasse un podcast pour l'avoir.
Pour qu'il parle un peu de vin.
Mais je crois possible.
Mais les deux, enfin c'est des.
Bon
c'est
bah des alors, on va faire un truc. Nathan, tu nous fais un accord mes vins, mes cidres, ça serait pas mal avec celui-là.
En plus, enfin avec la thématique de son resto, ils vendent beaucoup de cidre.
Ouais.
Ils sont amenés à vendre beaucoup de cidre. Enfin, c'est vraiment beaucoup autour de... Enfin, le resto s'appelle Sur Mer, donc enfin, ils vendent pas des pieds de cochon. Enfin, ils nous disaient qu'enfin voilà, il y avait beaucoup de choses sur lesquelles ils pouvaient faire un petit accord. Quoi. Et avec le Riesling, j'imagine bien.
Ouais, moi je pense que ça peut être pas mal. En tout cas, alors oui, la bulle elle est bien présente, mais ça c'est une fois qu'il est ouvert que voilà, on sent là l'aromatique arrive. Hein. L'aromatique arrive, on sent la gourmandise, il prend du charisme, il est fier. Hein. Mais encore une fois, on a cette belle longueur et on a plus de fraîcheur que sur le mauve et sur le bleu. On a une belle gourmandise. Moi, je trouve que c'est... Il va droit devant, hein. Il ne cherche pas à comprendre. Il est têtu, borné. Il passe pas par quatre chemins.
Et tu vois ce qu'on a goûté tout à l'heure dans l'ancienne laiterie. C'est pareil, infusion de Riesling, mais t'as le double de macération. C'est deux semaines de macération. Donc je trouve qu'on est beaucoup, on sent beaucoup plus le côté macération, le côté un petit peu tanin comme ça. Là, c'est la macération est plus subtile.
Ouais.
Je trouve ça magnifique. Il va falloir qu'on dise que Nathan, parce qu'il est hors de question, ça quitte que l'Alsace. Hein, je vous le dis tout de suite. On va créer un schiste. On va créer.
Attends, s'il te plaît.
Nathan, as-tu vu Game of Thrones?
Un clash.
C'est comment a fini le roi Geoffrey.
Oh, ça va aller, Nathan.
Mais oui.
Tu les auras, tu les auras.
Mais oui, on l'a gardé, t'as raison.
Non, je suis gentil. Mais c'est.
On
c'est...
peut en garder 2-3 bouteilles. C'est bon, ouais, oui. En plus, Nathan est très arrangeant.
Quelques cartons pour les salons.
Moi, veux. Je veux. Non, mais franchement, mais faut pas nous en vouloir. Qu'on goûte des bonnes choses et qu'on se dit que ça part, mais on est content pour les gens qui vont le boire après. Hein. Moi, j'espère que tes clients seront heureux parce que s'ils sont aussi heureux que nous, et encore eux, ils le goûteront quand il sera vraiment prêt. Donc,
c'est marrant, en plus, enfin, je trouve ça vraiment lunaire comme
Asie. Mais en fait, je vous avoue que là, sur le coup, j'ai l'impression de boire du vin et j'étais en train de demander, mais il n'y a pas de pomme là-dedans. Et heureusement que Léo a fait la même réflexion.
L'aromatique de la pomme s'efface un petit peu quand même.
Ouais.
Bah, s'efface pas dans la structure du jus, parce que tu sens que c'est bah c'est du jus de, c'est de la pomme. Tu sens un petit peu que
t'as
c'est
le, l'acidité malique
qu'a la pomme aussi, ouais. C'est... Mais t'as une, voilà, t'as une texture de bouche différente, t'as des aromatiques qui sont complètement, qui sortent complètement de ce
en fait, c'est la finesse de la pomme qui me surprend. C'est la finesse aromatique de la pomme qui me surprend, parce qu'on a tous goûté, mais surtout.
Surtout les jus, ouais.
Cette finesse, cette. Et où on se pose la question si c'est vraiment de la pomme ou pas.
Ça, je pense que c'est parce qu'on fait des presses directes. Enfin, des presses rapides. Ouais,
possible.
Manière de presser.
On fait pas. En fait, le procédé naturel. Enfin, procédé traditionnel de l'élaboration du cidre en Bretagne et en Normandie, c'est broyer les pommes et ensuite laisser ce broyat, cette pulpe. Infusé, macéré pendant 12 heures, 24 heures, 36 ou 48 heures. Voilà. Ça dépasse rarement 48 heures, je crois. Mais voilà, il faut laisser macérer, il faut que ça se charge en azote, c'est au contact de l'oxygène. Et ça oxyde les jus, quoi. Enfin, ça oxyde. Oui. Ça amène des textures et des aromatiques. Qu'on retrouve pas ici du coup parce que c'est une presse directe.
Mais des aromatiques propres à la pomme, quoi. Enfin, tu vois, le côté un peu tatin, un peu pomme cuite comme ça, compote de pomme. Ouais, ce côté macération apporte ces arômes-là un petit peu, je trouve.
Mais moi, je trouve ça. Ouais, moi, je suis touché parce que on sent vraiment que. Après, je vous connais aussi, donc forcément. En tout cas, voilà. Je vous vois, je connais votre simplicité, mais tout ça, c'est aromatique, c'est simple et putain, mais c'est bon, quoi, en fait. En fait, t'as pas besoin de faire 10 000 commentaires, quoi. C'est juste, c'est bon, c'est simple, c'est accessible à tout le monde et t'es pas encore reparti à Paris avec ça. Je te le dis tout de suite, d'accord.
Il faudra lui passer sur le corps.
Je sais faire, mais je sais pas s'il sera d'accord.
Il va le
défendre. Ouais. Mais c'est cool parce que.
Non, mais franchement. Quand même, là, quand la bulle, elle est aérée, là, alors là, c'est
un ouais, elle a pris un coup.
Là, c'est. Elle
a pris un coup, mais c'est bon. Au moins, tu sens l'aromatique. Moi, c'est.
Ah bon, hein.
C'est. Je préfère quand elle est un peu.
En fait. Je cherchais depuis tout à l'heure et je sais. Je sais maintenant, la bulle ressemble à. Alors, elle est plus fine que celle d'un crément, évidemment, mais je trouve qu'il y a la même réflexion, en tout cas, la même émotion que ce que j'ai goûté dernièrement chez Bucher à Wettolsheim.
Full.
Ouais, celui qui fait que des créments.
Qui fait que des créments. Ah, ouais. Et il nous a fait goûter Fleur de Lys et c'est pareil. C'est magnifique. En fait, c'est des créments qui sont d'une simplicité empreinte, par exemple. Empreinte. Je sais plus. En fait, je demande tellement peu les cépages que finalement, on les oublie. Enfin, c'est un nom, en fait.
Mais t'as raison. Hein.
C'est une émotion.
Jean-Michel serait content.
C'est ça. Ouais. Salut Jean-Michel. Je garde cette émotion. En fait, c'est important d'avoir cette émotion-là. On sait qu'il y a un nom qui nous a donné. Voilà, je veux dire, c'est ça qui est important. Et là, je trouve qu'on a cette accessibilité. En fait, c'est accessible. C'est une dinguerie, c'est accessible. Et je comprends pourquoi, dans un petit village, même si c'est le tien, ils ont mis du cidre local, parce que c'est accessible. C'est quoi? C'est le rouge?
Ouais,
c'est le rouge.
Non, mais c'est très
comme
bien.
Dit, on a très peu communiqué sur les autres, vu les quantités qu'on a. On a quand même assez peu. Effectivement, ouais, parce que ici, dans le bistrot Mamiflo à Bidertal, on vend le cidre de Renaissance. Alors n'hésitez pas à passer.
À Bidertal, parce que bien sûr, c'est sur toutes les routes, sur votre
chemin. Oui, on ne sait jamais, si jamais vous allez à...
vous êtes perdu.
Si vous allez en pèlerinage à Mariastein, oui, en
c'est
Suisse.
Vrai. C'est vrai.
Et ben, c'est, pour le coup, c'est sur la route. Mais sinon, c'est tout.
C'est sûr, c'est la seule route sur laquelle.
Ça me fait mal au cœur de dire ce que je vais dire, mais il faut passer à la dernière.
C'est vrai, il faut passer.
Faut vraiment passer à la dernière négociation.
Ça, c'est juste pour le show.
Mais ça va être blessé.
C'est juste pour la photo.
Déjà, il y a du liège.
Il y a du liège, oui.
Donc là, avant.
On remercie d'ailleurs Catherine Rice.
Merci, Catherine.
Salut, Catherine. Et qui a toujours refusé de faire un podcast. Vous allez peut-être réussir à.
J'aurais pas dû parler.
Non, mais j'ai une petite idée. Je vous la soumettrai en off. Alors, donc, jusqu'à présent, on avait la capsule.
Merci.
À la Jean-Pierre Frick.
À la Jean-Pierre Frick, oui.
Ah, lui, on n'a même plus que des capsules.
Et là, maintenant, on a du liège.
Et là, on a du liège. Alors là, moi, je sais. Et là, c'est un grand moment. Donc, je vous demande, on va faire un instant méditatif. C'est de la prière, là, on va communier avec. Et on va penser, en plus, c'est le jour de la Toussaint, donc on va penser à tous ces gens qu'on a aimés et on va leur dédier ce verre-là. Donc, je vous propose que, voilà, rendons hommage à ces anciens, nos anciens, avec qui on a grandi, qui ne sont plus là.
À nos anciens.
Ma grand-mère, tiens, mes grands-mères, mon grand-père, allez. Jour. J'ai envie de penser à ces gens-là et parce qu'on l'a goûté, ça me met une émotion et je pense qu'il est important de dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Donc profitons-en. Juste saluer ma frangine encore une fois parce que son combat va être difficile, mais on est là. On est là et on est bien là, les pieds sur terre. Alors goûtons ce beau breuvage. Donc c'est un cidre qui a un bouchon de liège. C'est juste ça.
Exact.
Pas de bulle.
Alors, zéro bulle. Intentionnel.
Oui, oui, c'est enfin, je veux dire, oui. Le liège n'est pas là par hasard.
Et là, moi, j'ai juste envie de dire, les gars, merci en fait. Merci parce que.
Merci à toi, Miguel.
Là, on a une poésie. On a quelque chose de simple, de. C'est pas du cidre, c'est pas possible, mais il y a du vin là-dedans. Non, c'est
même
un
pas.
Régime. C'est. Il y a du schiste, il y a du gris, il y a tout ce qu'on a goûté pendant. En fait, c'est une compilation de tout ce que j'ai goûté pendant 3 ans et en arriver là au bout de 3 ans et me dire voilà, on célèbre les gens qu'on aime avec ça. Moi, je suis plutôt fier. Fier qu'on se dise que mince, c'est tellement simple de goûter bon en fait. Qu'est-ce qu'on s'est pris la tête pendant des années à goûter tout ça. Qui c'est qui m'en parle de ce cidre? Alors, c'est une étiquette qui sera noire et je crois qu'il n'y a que quelques exemplaires.
204 bouteilles moins 2, du coup, 202.
Une barrique, en fait, on n'avait pas assez de bouteilles pour la passer. Et en fait, du coup, on a fait 200 bouteilles et là, il nous reste, on a mis le reste dans des damjans, quoi.
De nouveau pas assez de bouteilles.
Ouais, parce que pas assez de bouteilles. À la base, on avait, en fait, à la base, c'est les jus du Sungo, du bleu. On n'avait pas assez de bouteilles, donc on a laissé une barrique et on s'est dit qu'on verrait ce que ça donne. Et quand on l'a goûté un peu plus tard, qu'il avait fini la fermentation, tout ça, on a trouvé que c'était très intéressant. Donc on s'est dit pourquoi pas le mettre en bouteille d'Alsace. Ça s'appelle pas Renaissance, cette bouteille?
Bourgeoise, non?
Ouais, bourgeoise.
Enfin, quoi.
Les bouteilles d'Alsace un petit peu plus costauds qu'on trouve vraiment très jolies.
Je précise qu'aujourd'hui, les Alsaciens n'ont plus le droit de l'utiliser.
Exactement, parce que le rapport entre le goulot et le cul de la bouteille, enfin bref.
Ouais,
c'est comme ça.
C'est encore, les appellations, ouais, c'est vraiment
bonjour
quelque chose.
Bonjour l'administration française. Bonjour
l'administration française.
On adore ça,
Donc, c'est une bouteille bourgeoise Gros cru alsacien. Juslin l'utilisait pour son.
Oui. Et c'est chez les Juslin. On remercie Jean-Paul et Marie de nous avoir lâché
Pinot Noir.
Ces bouteilles-là.
Orphis, je crois.
Orphis, Harmonie, Bollenberg et les trois, ils le passent.
Orphis est magnifique.
Ouais, c'est très beau. Moi, j'aime beaucoup.
C'est très élégant.
C'est tellement bon. Orphis, c'est tellement bon. Bientôt.
T'avais pas goûté?
Non.
Mais si, c'était Pinot Gris. J'ai ramené une bouteille une fois sans étiquette. Non, pas avec toi.
Non. Mais tu veux, il faut goûter.
J'avais vraiment cherché sur l'antenne.
C'est magnifique.
Et du coup, voilà, on a mis en bouteille pour sur la fin de la fermentation pour faire le cidre bleu. On n'avait pas cette bouteille, du coup, il est resté une barrique. On a décidé de le mettre en bouteille en tant que cidre tranquille, sans bulle, sous liège. Et on n'avait pas.
Non, on n'avait pas assez.
C'est pour ça qu'on a une barrique, on a que 200 bouteilles.
On a encore les Damjan, on va les boire comme ça, au goulot.
Parce qu'en fait, on avait utilisé un peu de ce jus pour faire, pour compléter au dégorgement, et du coup, enfin, on avait, ouais. Il y avait un petit peu moins qu'une barrique entière, donc on s'était dit que ça ferait pas plus de 250 bouteilles, quelque chose comme ça. Et il y a eu un petit voile qui s'est fait dessus, enfin, c'est vraiment.
Une fleur.
Petite fleur, tout mignon, mais ça goûte.
C'est ça, c'est l'oxydatif.
Mais c'est pas du tout l'oxydatif.
Bah après, je suis bien content d'avoir trinqué avec ça pour les gens qu'on a aimés et qui sont plus là. Maintenant, s'ils pouvaient sortir de la tombe, ce serait bien. Là, ce serait le moment, réveillez-vous, c'est trop bien. Mais il y en aurait plus assez pour nous, donc finalement,
en plus,
c'est très
bien.
En plus,
100 bouteilles.
Alors, on dit ça, aujourd'hui, c'est la Toussaint.
C'est ça.
C'est marrant.
Ouais, c'est ça. Mais
Oui, bah oui.
Que, du coup...
Ouais, mais c'est ça, mais je pense qu'il faut que de temps en temps ça fait du bien de prendre une bouteille, de s'arrêter, de penser un peu en arrière. Je suis pas, on est tous un peu nostalgiques, hein, c'est important aussi. Mmh. C'est ce qui nous a fait grandir et c'est les gens qu'on a croisés. Je dis toujours, les rencontres, c'est des petits cailloux dans nos vies qui font ce qu'on nous sommes. Et puis parfois on change de vie, et puis, puis vous montez des projets. Moi je monte mon projet, finalement, bah, on fait tous partie de ce maillon du vin nature finalement. Entre vignerons, consommateurs, les gens qui créent des jeux de piste comme moi, ou du cidre, ou de la bière, et c'est ce qui fait qu'on aime se voir. En fait, je pense qu'on aime la convivialité entre nous, et
c'est ça, le partage, faire plaisir.
Cette force-là, quoi.
On aime échanger, discuter.
Parfois, on boit un peu trop, mais on boit de l'eau aussi.
De source.
Biderstein.
Ouais. La
bière pique.
Du Jura alsacien. Mais c'est vrai que ça fait franchement plaisir, et moi je pense que c'est plutôt pas mal. Mais je crois qu'il est temps pour les petites questions un petit peu à la volée comme ça au hasard, puisque la fin s'approche. Alors il y aura un épisode qu'on va enregistrer après, mais je vous expliquerai, parce que j'ai une petite idée.
On est pas au courant.
Voilà. On est pas au courant.
Mais ils sont pas au courant.
Là, on est vraiment dans l'inconnu.
Ah, même moi, là, c'est le pilote. Alors là, c'est comme la première fois où j'ai enregistré avec Adrien le pilote du Raisin des Papilles. Là, c'est un pilote que je veux créer. Mais...
pilote du cinéma.
Mais j'ai envie de m'amuser un peu avec les gens aussi, les professionnels du vin, et les mettre au défi. Et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, ben, on aura bu du bon vin. Et c'est tant mieux. Il y a toujours du plaisir quelque part. Allez, question à la volée comme ça. Allez, je vais commencer avec David. Avant l'amour, tu bois quoi?
Oh, dame. Avant l'amour, faut boire un truc un petit peu énergisant. Hein.
Quoi?
Un petit peu vif, un petit peu sur le... Ok. Qu'est-ce que je bois? Tu veux un vigneron, un truc?
Tu bois quoi?
Je bois du cidre.
Voilà. Après l'amour, tu bois quoi?
Après?
Oui.
Ah mince, moi j'étais en train de préparer avant.
Et tu me demandais avant. Hein.
Après, je bois un truc un peu chiadé, genre un truc élevé en barrique, style un chardot, tu vois. Un chardot bourguignon un peu gras, un peu ample, ou bien des chenins d'Anjou, là.
Aurélie Premier Cru, les Margotés.
Et du coup, avant l'amour, tu bois quoi?
Avant l'amour, j'aurais tendance à boire un truc pété de volatile, et dans nos cidres, il n'y a pas assez de vol. Donc ouais, j'aurais une bonne cantillon bien énervée.
Ouais, ça, c'est... Ah, bonne gueuse.
La volatile,
et toi, après l'amour, tu bois quoi?
Ouais, moi, après l'amour, j'aurais dit un truc un peu bourgeois, comme ça... Là maintenant, j'ai aussi envie d'aller en Bourgogne, peut-être plus sur un rouge, un truc. Alors je dis ça certainement parce que je l'ai vu dans la story de Léo, mais les Rio là de chez Renaud Boyer, voilà, un truc un petit peu apaisant. Enfin, je trouve. Ouais.
Apaisant. Je comprends.
Ouais. Ouais.
Si tu étais un vigneron, tu voudrais être qui en Alsace?
Albert Sels pour rouler en Range Rover.
Non. Oh, sa taille de costard.
Si tu étais. Je garde. Mais si tu étais un terroir, tu voudrais quoi?
Ah, pas mal.
Si j'étais un terroir. Si j'étais un terroir, j'aimerais être. Le granit. Ou le schiste pour sa rareté.
Toi, si tu étais un terroir.
Tu veux un grand cru ou un truc comme ça ou...
Ce que tu veux.
Terroir graisseux, j'aurais tendance à te dire, terroir un petit peu d'altitude, peut-être, comme ça.
Ok. Quel est le dernier... tu m'emmènes manger, on joue?
C'est moi qui paye? C'est la boîte.
Si tu m'en veux de manger.
Attends. Je t'en veux de manger. En Alsace, hein?
Où tu veux?
Chez Paulus.
Chez Paulus.
C'est fermé.
Non, mais
franchement.
Vrai,
franchement,
sinon, au verre volé à Paris.
Okay.
100%, parce qu'en termes de canettes et en termes de Boostify, t'es trop bien dans ce genre d'endroit.
Ok, mais en Alsace?
Chez Tandem.
Tandem,
bon, parce que c'est chez moi. Ça fait longtemps que je suis plus à Strasse.
C'est la maison.
Désolé, les copains à Barry.
Bonjour.
Alors, moi, je vous emmène dans le Jura alsacien, hein, chez Rémi. Restaurant au soleil à Liebsdorf. D'ailleurs, salut Rémi. Salut. Et c'est un jeune, il a à peu près notre âge, hein, 25-30 ans. Il reprend le restaurant de ses parents et il change complètement de direction. Il fait beaucoup de carfrites, etc. Cordon bleu, machin, dans le Jura alsacien. Et ben, il change un petit peu. Il fait un menu du marché qui est extraordinaire en 5 plats, quelque chose comme ça. Il y a vraiment de la recherche. Il a vidé complètement la cave et il l'a rempli avec des bons vins, les vins que lui il aime, qu'on aime aussi d'ailleurs. Mm-hmm. Et voilà, je pense que c'est.
Moi, je veux bien une carpe frite avec de la nature.
Alors, je sais pas s'il est fait encore, mais.
Mais vraiment, pour le coup, étoile montante de la gastronomie orinoise, alsacienne.
Je vais peut-être laisser faire des épisodes sur la cuisine aussi.
Non, vraiment, c'est un gars sûr.
C'est quelqu'un qui a de l'ambition et du courage, je trouve.
Est-ce que tu aimes qu'on t'aime?
Je serais un menteur, je pense.
Oui.
Si je disais non, oui, non, moi je suis un. C'est mon carburant, je pense. Hein,
Les autres, oui.
T'es émotif? Merci.
Bon, oui.
T'es très sensible.
Voilà, je pense que ouais, je suis quelqu'un à. Je suis insensible, ouais.
Si tu étais un super héros, tu serais quoi?
Rorschach dans Watchmen. On défonce la gueule de tout le monde, non? Ouais.
T'as une idole?
Hein?
T'as une idole? T'as quelqu'un de célèbre que tu aimes et
que j'idéalise.
T'es fan de quelqu'un ou je sais pas, par du raisin et des papilles. Je suis
inaccessible. Non, des gens plus proches, pas forcément célèbres, à célébrité, non, je crois que je non, fameux l'esprit.
Et toi?
Non, j'ai pas d'idole non plus. Que ce soit en célébrité, enfin, de célébrité de toute façon.
Tu aimes quand t'aimes?
Pas. Oui, beaucoup trop.
Mm-hmm.
Beaucoup trop, ouais. Ouais, j'aime bien quand même.
Il y a un truc que tu lui as jamais dit et que tu pourrais lui dire?
Non, arrêtez, ça devient trop sentimental.
Écoute Léo, par rapport à ta mère, bonjour Rachel. Non, quelque chose que je lui ai jamais dit. Moi, j'imagine qu'il y a plein de choses que je ne lui ai pas dit, hein, mais.
Non. T'es pas obligé. Dis une connerie.
Non. Alors, ce que je ne lui ai jamais dit, par contre, c'est que je suis très content de l'aventure. Je l'ai peut-être déjà dit, mais enfin, je suis très content de cette aventure qu'on vit ensemble et que je suis content de la vivre avec lui.
Et toi?
C'est vrai que.
Si tu reprends les mêmes mots, je te cours après.
Non, mais même si on se l'est déjà dit, c'est des choses qu'on dit pas assez souvent, parce que mine de rien, c'est quand même un chemin qui est semé d'embûches et super compliqué, que ce soit d'un point de vue administratif ou même quand tu tapes dedans, quand t'es dehors sous la pluie à récolter. Et je pense que si moi je le faisais tout seul, j'aurais abandonné depuis très longtemps. Et je suis très très content du petit chemin qu'on a déjà fait, de comment on évolue et puis et de le faire avec lui, ouais, clairement, parce que c'est un partenaire en or. David.
Si Renaissance sera où dans 5 ans?
CAC 40, je pense.
Te connaissant, mon ami,
Renaissance, oui, c'est hopefully back dans la grange. Avec un peu de chance, on arrivera à griller la grange.
Ouais.
Mais sinon, j'espère déjà qu'on sera toujours là et toujours fidèle à la philosophie de départ. Et...
Rien que pour boire ça, je veux bien que vous soyez encore là.
Oui.
Ça m'arrange. Oui. Parce que c'est bon.
En tout cas, on y compte bien. Mais...
Si tu pouvais rentrer dans une table, ce serait laquelle? Partout où tu veux dans le monde.
Comme ça, rentrer dans une table. Bah, littéralement.
Non, mais tu voudrais vendre ton
Ah
Alors on se retrouvera pour un autre épisode derrière, parce qu'on va, essayer quelque chose, ça marche pas, j'en sais rien, mais il faut, si à un moment donné on n'essaye pas, on le fera jamais, parce qu'on n'a pas parlé de vin, mais je voulais parler de vin au départ, et puis je me suis dit, c'est tellement dommage, on parle de cidre, alors 100% cidre, je trouve que c'est très bien. Alors cette aventure du raisin et des papilles, monsieur David, t'as apprécié ce moment-là?
Alors j'ai énormément apprécié que tu viennes pour le podcast des pommes et des papilles.
Des pommes et des papilles, c'est vrai.
Non, mais c'était, ouais, c'était super chouette. Je pense qu'on est très content de t'accueillir ici dans le Jura alsacien à Biedertal. Et voilà, on passe un super moment, j'adore.
Mmh. Bah, je pense que c'est bien de se poser, discuter un peu, ça change une fois et toi, t'as...
Bah, c'est inédit aussi qu'on prenne le temps d'en parler et c'est... Et c'est ce qu'on se disait avant, que c'est très... Je pense que c'est très important de donner la parole à justement des gens qui sont... Même en salon, t'as 10 000 personnes autour de toi, ouais. Tu prends jamais le temps. Donc je pense que c'est des moments qui sont plutôt chouettes. Donc qu'on ait l'occasion d'aller un petit peu... d'approfondir un petit peu plus le sujet à chaque fois. Donc,
Alors avant de partir, je vous propose, c'est moi qui remplis les verres.
Oh, merci.
Parce qu'on ne peut pas faire le final sans avoir un verre plein, parce que je suis en Alsace et j'ai pas envie de finir en enfer.
On a d'autres canettes à boire, mais peut-être
pas. Mais eux ne le savent pas, les auditeurs ne le savent pas, parce qu'on va doucement vous quitter, vous dire qu'on va partir de petit à petit de ce beau petit village où finalement on se sent bien. J'ai la chair de poule depuis que je suis arrivé, mais ça me rappelle ces moments-là où toutes ces rencontres depuis 3 ans et je trouve que c'est beau d'avoir eu le succès que j'ai vu sur Lambert, Spielmann et Emilia, qui me fait plaisir parce qu'ils le méritent tellement et qu'ils ont donné en plus. Lambert est devenu papa, donc félicitations à toi.
Félicitations Lambert.
Très Lambert, important. Félicitations
et,
à vous.
Il y a eu beaucoup de papas ces derniers temps, j'ai un peu oublié qui est devenu papa, mais il y en a plusieurs. En tant qu'à Lambert, mes respects et plein de bonheur à vous deux, vous trois plutôt. En tout cas, on va continuer comme ça. Comme je dis toujours, buvons modérément, buvons libre. Buvons Alsace et je dirais aussi aujourd'hui je rajoute buvons du cidre et là je veux qu'on verre le verre et je vais entendre un grand Eskilt mieux, allez on refait Eskilt.
N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, SoundCloud, YouTube. Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool. Buvez modérément, partagez ce breuvage entre vous, mais surtout, ne mettez pas votre vie en danger.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Tsinis.
Kayla Tsinis. I'm Kayla Tsinis, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com